suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Quand vous écoutez déjà le générique, vous savez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes au 1er août, premier jour même d'ailleurs de ce 8e mois de l'année 2024. Merci de nous recevoir et merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vito Guitomiga est à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakucha. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sky FM à Badou, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez aussi au-delà de nos frontières, c'est-à-dire dans le monde entier. Et vous nous suivez à travers notre chaîne YouTube et aussi notre plateforme Facebook. Également, il y a des radios partenaires en ligne telles que Ibn Radio et Radio Les Bénins qui relaient cette émission. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités, bien sûr, confrères et journalistes présents dans le studio, déjà avec moi. C'est bien, Ambroise Kondo. Ambroise, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les invités ici présents. Bonjour les auditeurs qui nous suivent actuellement, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. J'aimerais profiter de cette occasion pour envoyer un message et soutenir mon confrère Ferdinand Haïté, qui depuis un certain moment, depuis qu'il a quitté le Togo, fait un travail excellent, qui dépasse même l'entendement humain, qui dépasse ce qu'il a commencé ici. Et je suis fier de lui, je suis content. Parce que même si c'est dans le trou, il fait tout pour le sortir. C'est le combat qui continue, c'est un combat de virevoltant qui continue là-bas. Et je crois que Dieu sait avant de faire toute chose. Nul n'a demandé de quitter son pays pour aller rester chez les Blancs et envoyer des messages d'information ici. Mais comme c'est Dieu qui l'a voulu, on rend grâce à Dieu pour sa vie et pour la vie de sa famille. Que le travail continue, que le combat continue, pour que un jour le Togo puisse avoir un changement, pour que nous ayons de l'alternance. Parce que, après tout, on ne peut pas vivre dans un régime soixantenaire. Moi-même, je suis d'une génération, mon papa a été d'une génération, nos enfants aussi seront d'une génération qui seront engloutis, sans avoir cette chance d'avoir l'alternance. Du changement à la tête du pays.
D'accord, on en parlera.
Puisque personne n'a le titre foncier sur le Togo.
Oui, le débat, nous n'avons pas encore commencé le débat.
J'ai lancé le débat comme ça.
Vous l'avez lancé, c'est moi qui lance les débats ici au Club de la Presse. Ambroise, merci pour cette interpellation, bien sûr. Alors, Michel Yaou Tsadja, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux super branchés de Canal FM.
Ils sont très nombreux.
Ils sont très nombreux, je le sais. Je voulais profiter de l'occasion pour revenir sur le trou qui commence au niveau de la fin du goudron à l'Ebasimé, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Ebasito, le début de la route de Michintobé.
Ça vous tient à cœur, hein?
Oui, parce que,
vous ne cessez jamais
ceux qui sont chargés de régler ce problème se connaissent et ils n'ont qu'à faire diligence. Ils n'ont qu'à faire, en tout cas, cet effort-là pour aider les usagers de cette route-là. Parce que si vous vous mettez au feu rouge de l'Ebasimé là-bas, vous regardez ceux qui viennent de Michintobé et de Kovié, vous allez voir que c'est vraiment un monde impressionnant. Et cela doit interpeller les consciences de ceux qui sont chargés de régler ces problèmes-là pour aider les usagers à vraiment vaquer librement.
La voie est presque impraticable, c'est ça?
Oui, au début, il y a un trou qui est là, béant, depuis de nombreux mois. Ambroise ne va pas me démentir, puisqu'il va de temps en temps chez lui.
Ça me dit, je suis encore là-bas.
Donc, voilà.
Et ce n'est pas tous les véhicules qui peuvent passer.
Non, c'est...
On a un véhicule
Donc, c'est-à-dire là, le trou au début pas. De à la fin du possible. Goudron là, ceux qui sont chargés de le faire, ils se connaissent, ils n'ont qu'à aider les populations dans ce sens. Mmh. Voilà.
C'est très important. Votre interpellation, le message est passé. Nous avons un invité, tel que je le rappelais tout de suite. Nous avons un invité politique, c'est bien Jonas Siliadin. Jonas, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Mmh. Alors, vous êtes alors le vice-président du MPDD. MPDD, c'est bien le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement, bien sûr, MPDD. Mais j'ai envie alors de savoir comment se porte aujourd'hui MPDD et comment se porte votre parti politique.
Nous commençons à nous remettre du choc que nous avons reçu du décès subi du président Kodjo. Nous nous portons comme un parti qui, pendant 4 ans,
il semble que votre micro n'est pas ouvert, donc nous allons prier. Voilà, Michel, voilà, je pense que maintenant on vous écoute. Voilà, rebonjour.
Rebonjour, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
D'accord, je parlais alors de MPDD. Comment se porte votre parti politique, MPDD?
Alors, je disais que le parti commence à se relever après le choc du décès du président Kodjo, qui nous a beaucoup secoué. Et nous nous portons comme un parti qui, depuis 4 ans, a connu des épreuves majeures. Et nous sommes aujourd'hui mobilisés de manière sereine à aller vers un congrès ordinaire pour ouvrir une nouvelle séquence. Mais ça va. On ne peut pas dire que c'est la pleine forme. Mais nous avons réussi à sauver l'essentiel pour le moment et avec courage à continuer à envisager l'avenir.
Mmh. Alors, justement, vous parlez alors du décès de votre président tout de suite. C'est vrai, nous avons tous ensemble appris cela, mais comment vous avez accueilli l'information?
Avec torpeur. Torpeur parce que, je l'ai dit à plusieurs reprises, tous ceux qui étaient en contact avec lui peuvent témoigner que jusqu'à vendredi, 2 mars, tous ceux qui étaient en contact avec lui avaient pu échanger librement, correctement avec lui. Rien ne présageait, rien ne laissait penser qu'il était dans une certaine situation qui pouvait conduire à penser qu'il allait décéder. Donc oui, c'est une surprise. Et puis aussi, il y a une forme de confusion parce que même si nos tests prévoient, parce que vous savez que tous les statuts prévoient toujours ces cas, nous n'avions jamais expérimenté ça et nous n'avions pas en tête de d'avoir affronté cette situation et à la gérer. Donc il y a eu quelques moments d'interrogation, de torpeur, de confusion. On n'y croyait pas. Même une fois qu'on a réalisé, on espérait encore un miracle. On n'y croyait pas jusqu'à ce que, la rumeur devienne une clameur.
Alors, déjà, quand on prend Dr. Abiyomi Kodjo dans la vie alors de ce parti politique, MPDD, concrètement, qui il a été pour vous?
Le président fondateur, le leader qui inspirait les actions et les projets du parti, et aussi une boussole, parce que comme il avait beaucoup d'expérience de la gouvernance, des affaires publiques, et qu'il a dirigé aussi des sociétés, etc. Donc il avait une vision complexe, une vision complète et holistique des problématiques, et donc souvent il nous aidait à voir plus loin, à voir mieux les contours des situations qui se posaient. Donc c'était un éclaireur, c'était une boussole pour nous. Je pense que sa présence a été tellement forte que justement son départ nous fragilise beaucoup. C'est comme un enfant qui a toujours vécu à l'ombre de ses parents ou de son père. Quand le père s'en va, les premiers mois sont difficiles. Et je l'avoue avec courage, nous avons eu beaucoup de difficultés aujourd'hui à nous prendre en main, même si les textes nous balisent les chemins. On ne remplace pas comme ça du jour au lendemain quelqu'un comme Agbayomi.
Mais est-ce que, justement, on ne remplace pas quelqu'un comme ça, hein, comme Agbayomi, et aussi du jour au lendemain, mais est-ce que ça ne repose pas aussi la question de la succession dans nos partis politiques, surtout les partis politiques de l'opposition?
Bien évidemment. Alors, vous savez que la charte des partis politiques a été promulguée en 1991. Donc, vous savez, ça veut dire que nous n'avons pas assez de recul aujourd'hui. Assez d'expérience, même si ça commence à faire un peu longtemps, Donc, nous sommes encore en phase d'apprentissage. C'est des situations comme ça qui vont nous amener progressivement à construire ce qu'on appelle la résilience des partis et aussi à dépersonnaliser les partis politiques. Généralement, quand vous prenez les partis aujourd'hui au Togo, ceux qui, y a beaucoup qui sont encore dirigés par leur fondateur et ceux qui ont des difficultés parce que le fondateur est parti. Et donc, nous pensons être parmi les exceptions des partis et à pouvoir faire une transition après le départ du président et fondateur et malgré tout à maintenir une existence conforme à nos objectifs.
Et concrètement, comment vous y prenez? Qu'est-ce que vous faites pour justement avoir cette succession comme cela se doit?
Alors, moi j'ai mon rôle en tant que première autorité de fait du parti, c'est de faire en sorte que tout le monde suive la ligne qui est dessinée par nos tests. Donc les tests, tous les tests, rien que les tests. Première chose. Deuxième chose, c'est d'ouvrir suffisamment le jeu pour rassurer les gens, parce qu'il faut aussi parler. Les gens sont animés par des émotions, la peur, la frustration, la tristesse, etc. Donc leur parler, donc parler aux militants, parler aux élus, parler aux cadres. Donc nous avons des réunions régulières, rassurer les uns et les autres et faire regrouper les troupes. Il y a des gens qui sont partis. Pour des raisons X, Y, nous avons commencé à les appeler, à les ramener pour que nous ayons suffisamment de points de vue, d'imagination, de ressources pour envisager l'avenir de manière conforme au statut. Donc les tests, tous les tests, rien que les tests.
Vous allez observer ces tests dans leur intégralité, c'est ça?
Moi, c'est ce à quoi je m'emploie depuis le 3 mars.
C'est vrai que le débat s'est posé entre-temps par rapport surtout à cette question, à leur dommage national à Dr Abiyomi Kodjo. Et c'est vrai, on attendait quand même que l'État offre des hommages nationaux, justement, à Abiyomi Kodjo. Mais finalement, on n'a pas vu quelque chose de ce genre. Est-ce que vous avez été surpris?
Non. Non, parce que nous sommes au Togo, nous connaissons comment les gens réagissent dans notre pays. Parfois, on s'attendrait, et par le passé, on a eu cette naïveté-là, qu'à un moment donné, il y aurait un sursaut, mais ça n'est jamais arrivé. Donc, à partir de ce moment, nous, la seule chose qu'on souhaitait, c'est de ramener le corps sur sa terre natale et lui donner un dernier repos digne de ça, un dernier hommage, le remettre à Dieu. Mais le reste n'a pas d'importance. Parce que vous savez, tant que ce ne sont pas des vautours qui vous enterrent ou qui vous dévorent, vous avez, et que ce sont les proches, les gens qui vous aiment, qui vous portent dans leur cœur vraiment, qui vous rendent leur dernier hommage, vous avez sauvé l'essentiel. Et Victor Hugo disait que les grands hommes se contentent de dessiner le piédestal, de construire le piédestal, l'avenir se chargera de la statue.
L'avenir se chargera de la statue. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la première fois, enfin, et ce n'est pas un cas isolé. Quand on prend des gens quand même qui ont eu à occuper des fonctions au niveau alors de la République, mais qui, à leur décès, n'ont pas eu alors d'hommage national. Et finalement, comment vous expliquez cela?
Il y a une volonté d'écrire une histoire sélective et d'imposer une voie unique. Une vision unique construite autour du même groupe et des mêmes personnes. Et donc la concurrence mémorielle, on ne veut pas. La concurrence symbolique, on ne veut pas. Et d'ailleurs, c'est inscrit dans l'ADN de ceux qui ont ce comportement et cette démarche, c'est inscrit dans leur ADN que la loi ne s'applique que si elle nous est favorable, si elle leur est favorable. En dehors de ça, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principe, il n'y a rien qui soit respectable. Ça, nous l'avons constaté depuis. Ce serait dommage de perdre du temps aujourd'hui pour s'époumoner, pour se dire on est surpris, ah c'est malheureux, etc. etc. Vous savez, que représente un hommage public ou un hommage officiel? La mort est la mort. Quand vous mourrez, nous qui croyons à l'au-delà, nous pensons que c'est le début de notre voyage, où on se présente devant le prétoire suprême, devant son Dieu, avec tout ce qu'on aura fait. Et en ce moment-là, ce qui est important, c'est que nous soyons tous unis dans une prière fervente pour que le Père Céleste accueille l'âme du défunt. Les vivants, tout ce qu'ils font, c'est du cinéma. Ça n'a aucune emprise. Qu'ils le fassent bien, c'est tant mieux. Qu'ils ne le fassent pas, C'est un non-événement.
Alors, nous avons appris l'information tout récemment, c'était le lundi, à travers un communiqué où vous annoncez même d'ailleurs la suspension de votre participation à tout regroupement politique, notamment la DMK dont vous faites partie. Et vous êtes même d'ailleurs parti, membre fondateur même d'ailleurs de ce regroupement politique. Et finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Ce qui n'a pas marché, c'est que nos amis de la DMK n'ont pas su à un moment donné arrêter une séquence. Il est normal que tout ce que la DMK fait jusqu'au 3 mars est lumineux. On peut s'en réjouir. Mais quand on est en politique, il faut avoir le courage de dire la vérité. Même si la dynamique unitaire de l'opposition reste atemporelle et valable tout le temps, la dynamique, Monseigneur Kouadjo, dans sa lettre, ne peut plus continuer au-delà du 3 mars. Que l'esprit continue, oui. Et donc, il était important que nous nous retrouvions pour poser les jalons, les bases d'une nouvelle séquence. Mais nos amis sont dans une dynamique symboliste, spiritualiste, extrémiste, qui est difficilement compatible avec la réalité politique. Et quand nous essayons de l'expliquer, c'est une rhétorique très simple. Si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes corrompu. Si vous n'êtes pas avec nous, si vous nous contestez ou si vous nous demandez de changer, c'est que vous êtes acheté par quelqu'un. Et nous, ils disent qu'ils ont fait un serment, ils ont fait quoi? La politique ne se fait pas à coup de serment spirituel. La politique se fait sur la base de convictions, de projets. Et non. Et à chaque fois, il faut faire l'examen de cette action et savoir ouvrir de nouvelles séquences quand ils le font. Nos amis sont dans cela. Et après, ils font de la démagogie. C'est juste ça. Démagogie, égo, et puis extrémisme spiritualiste. Pour que cela puisse plaire aux uns, aux autres, ça, je peux comprendre. Mais nous sommes un parti, nous venons de perdre notre président, nous avons besoin de nous regrouper, de nous restructurer. Nos amis ne veulent pas nous aider dans ça. Ils créent, ils nous envoient, ils font en sorte qu'il y ait des divisions au sein du MPDD. Ils créent des confusions au sein de nos rangs.
Alors, quand vous parlez alors de vos amis, vous parlez de qui encore au sein alors de la DMK? Parce que pratiquement, d'aucuns le disent, la DMK a été même d'ailleurs soutirée ou du moins a été vue de sa substance.
Alors, c'est ce que le commun des mortels voit, mais quand nous discutons avec, par exemple, M. Nsukwe ou M. Dr. Achou qui est en Suisse et d'autres personnes, ils parlent d'écosystème de la DMK. Et nous ne connaissons même pas les configurations de cet écosystème. C'est cette question-là juste qu'on a posée qui a créé des problèmes. Nous avons créé une commission d'information au sein du MPDD, au bureau politique, pour rencontrer la coordination nationale, pour dire aujourd'hui, quels sont les objectifs qui sont poursuivis par la DMK aujourd'hui. 2, qui compose la DMK? 3, comment la DMK se finance? Et ils ont refusé de nous répondre. Arguant que
vous n'avez pas de réponse.
On n'a pas de réponse et ils disent que. Alors, quand nous avons forcé un peu en notre sein, puisque le coordinateur national, c'est Paul Missiagbeto, il est membre du bureau politique. Comme la coordination ne veut pas nous recevoir, on lui a demandé, lui, de nous expliquer en mettant sa casquette, parce que dans la journée, il met 3 casquettes, je ne sais pas, parfois il est Paul Missiagbeto, parfois il est le représentant de Monseigneur Kouadjo, parfois il est DMK, parfois il est tout ça, bref.
Et il y avait une confusion.
Et il nous a expliqué. Ce qu'il nous a expliqué est encore plus dangereux que ce qu'on pensait.
Qu'est-ce qu'il nous a expliqué?
Il nous a expliqué que la DMK reçoit ses ordres de la CIDMK, la Coordination Internationale DMK. Pas des partis politiques ou des organisations qui la représentent, mais de la CIDMK, qui est elle-même arrimée à ce qu'on appelle le Conseil d'État du gouvernement de je ne sais quoi. Deuxième chose, quels sont les membres? On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, dans beaucoup de gens, beaucoup d'organisations, et que même la DMK a adhéré à une structure qui s'appelle Urgence Républicaine. Nous n'avons jamais entendu parler officiellement.
Quoi, vous faites partie d'une structure que vous ne connaissez pas?
D'une structure qui a adhéré à une structure sans consulter les gens. Et cette structure n'a pas une existence légale. Même si sur le plan combatif, lutte démocratique, tout ce que vous voulez, ça peut s'entendre. Mais nous sommes un parti républicain. Sérieux, si on doit adhérer à quelque chose, on doit nous le dire. Troisième point qui est encore plus dangereux, comment la DMK se finance? On nous dit qu'il y a plusieurs donateurs et que l'essentiel vient de l'extérieur. Et on nous explique que nous, PDD, nous ne représentons que 0,01% du financement de la DMK. Si vous considérez que pendant 4 ans, c'est nous qui avons mis au service de la DMK notre siège, 80% de ressources, les charges et tout ça, et que cela ne représente que 0,1%, ça veut dire que la DMK est assise sur un trésor de guerre dont on ne connaît pas l'origine. Or, vous connaissez bien les règles internationales aujourd'hui en matière d'exigence d'éthique financière. Nous sommes un parti sérieux, nous ne pouvons pas accepter d'être dans une organisation sans poser des questions, sans avoir de compte rendu de ce qui se fait. Qui a de l'argent dont on ne connaît pas l'origine et dont on ne sait pas l'affectation réelle? C'est des questions importantes, ça. Hein, l'éthique financière, c'est ça. Donc, toute cette confusion-là, avec un peu d'ego, de démagogie, on exagère tout de suite, on monte au pilori, on invective, c'est pas serein. Quand le parti est avec son président fondateur, que les choses sont en place, peut-être qu'il a plus de ressorts que moi. Moi, je suis pas, j'ai pas les tripes, je n'ai pas la poitrine d'Aguillaume. Donc, j'arrive, je dois sauver les meubles, donc j'ai besoin que mes troupes soient derrière moi et ne reçoivent des instructions que de nous.
Mais est-ce que ce n'est pas votre présence qui bouscute dans tout?
Bien sûr, je le sais, je ne suis pas naïf. Parce que, vous voyez, moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à attirer la lumière vers moi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tout le monde pense que c'est maintenant que je suis du MPDD ou c'est maintenant que je m'intéresse au MPD. C'est faux. Je suis l'un des plus historiques collaborateurs d'Aguillaume.
Cécilia Dain, c'est un nom que nous connaissons.
Voilà, les plus fidèles. Et je discutais avec le président Kodjo tout le temps. Il y a très peu de textes que le président Kodjo publie sans que je ne donne mon avis, jusqu'à sa mort. Donc, même si je ne suis pas tous les jours m'agiter devant les trucs, je connais bien, je connais l'ADN, le logiciel du MPD. Et les tests disent quelque chose. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Moi, je n'étais que deuxième vice-président. Adja, premier vice-président. Le président lui-même étant là. Donc, moi, je ne m'attendais pas que le sort ferait que Adja soit éjecté en avril 2023, que le patron décède un an après, presque un an après, et que je me retrouve devant les faits accomplis. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses responsabilités. L'administration territoriale sait que c'est moi le deuxième vice-président et la plus haute autorité du parti en ce moment-là. Si je laisse le parti aller à volo, à s'impliquer dans des aventures, tout ça, si on doit demander des comptes, c'est à moi qu'on doit demander, et c'est normal.
Mais est-ce que la situation n'existait pas ainsi quand, du vivant alors de Dr. Aguillaume?
Non, la situation n'existait pas comme ça parce que moi, l'expérience que j'ai, c'est que il faut savoir s'effacer, laisser les choses se faire dès qu'il y a la tête. Dans ma langue, on dit qu'on ne met pas le chapeau au genou quand la tête est là. Il y a beaucoup de choses qui ne l'allaient pas autour du président Kodjo, mais par respect pour lui. Et avec la confiance qu'on a sur sa capacité lui-même à peser les choses de manière objective et efficace, nous l'avons laissé faire. Donc certains se sont arrogés des droits, des passe-droits, ou se sont même construits des films dans leur tête. Et ils pensaient que ce film-là allait se jouer comme ils le voulaient. Quand je suis arrivé, quand les choses se sont passées, depuis le mois de mars, je suis à Lomé régulièrement, tout le temps d'ailleurs maintenant. Quand les choses se sont passées, il y a quelqu'un qui a communiqué, qui a produit un projet de décision, le nommant vice-président, dans une totale violation des tests. C'est Paul Missiagueto. Et il a demandé au bureau politique d'approuver cette décision-là, par signature. Les gens lui ont dit non, c'est pas ce que prévoient les tests. Les tests disent que l'intérim est assuré par quelqu'un qui est désigné parmi les vice-présidents et le secrétaire général, pas le bureau politique. C'est tout. Et à partir de ce moment, c'est fini, c'est un problème. Bon, moi je ne sais pas.
Alors, nous rappelons que Paul Missiagueto a finalement démissionné aussi de votre parti MPDD. Mais comment vous avez accueilli cette démission?
Moi aussi, je l'ai appris dans les médias. Les procédures ne sont même pas suivies, vous voyez bien. Nous n'avons pas été saisis par courrier. Nous avons d'abord une vidéo, nous avons eu une lettre ouverte. Bon, nous en prenons acte. C'est dommage parce que, justement, M. Paul Missiagueto a les qualités et l'expérience, en tout cas une forme d'expérience qui aurait pu lui permettre d'être parmi les dirigeants du parti. On serait allé au congrès, il aurait fait valoir ses arguments et j'étais prêt à... Ça va paraître politique et souvent se dit. Moi, j'étais prêt à le soutenir s'il avait une vision conforme au test. Parce qu'il est sur le terrain.
Toi, finalement, il n'avait pas vraiment une vision conforme au test alors du parti.
Pour moi, non. Parce que les tests du parti disent que le MPDD est un parti modéré. Un parti d'instruction. Un parti d'opposition constructive. Qui veut faire en sorte que on puisse organiser la vie politique autour d'un consensus. C'est ce que disent les tests. Première chose, ça c'est l'esprit général du test. Deuxième chose, les tests ont prévu comment les limites s'organisent, les choses se font. Comment vous, qui êtes conseil spécial président, donc 22e sur une liste de 26 membres du bureau politique, par le fait que vous dirigez une coordination au nom de notre parti, vous puissiez nous dire que vous n'avez de compte à nous rendre, que nous ne pouvons pas vous poser des questions, que le MPDD vit grâce à la DMK, que si le MPDD se démarque de la DMK, il sera fini. Comment on peut proférer des choses comme ça? Je suis là, personne ne m'informe, on fait des activités au nom de la DMK dont fait partie le MPDD. Nous allons, par exemple, la veille politique qui a été faite au siège du MPDD. J'étais là, personne ne m'a invité. La dernière conférence que le MPDD a faite, ça s'est produit quelques jours après que nous sommes allés à Tchèque-Port soutenir un de nos camarades qui a perdu sa maman. Nous étions tous ensemble avec Paul Bissek-Beto. Je les ai reçus chez moi à la maison. Personne ne m'a dit qu'il y avait une activité lundi. Moi aussi, j'apprends sur les médias lundi qu'ils font une conférence. Ça veut dire qu'en fait, au départ, les gens veulent faire ce qu'ils veulent. C'est pas comme ça qu'il faut organiser un parti.
D'accord.
Et moi, je n'accepte pas le désordre.
D'accord, vous n'acceptez pas le désordre. Ambroise, vous avez écouté Jonas Siliadin, alors sur l'après Abeyomé, c'est une situation quand même qui doit être déplorable.
Tu sais, moi, je suis ces mouvements-là de loin. Certains rentrent dans mes oreilles. Je les analyse à ma manière. Je n'ai pas eu la chance de suivre tout les grimaceries qui se font. Parce que j'appelle grimacerie parce que je me dis qu'Abeyomé est un homme d'État, est un homme de haute carrure et qui ne mérite pas ces petites querelles-là après lui, quoi. Vous savez, quand est-ce que... D'abord, ça a commencé par la DMK qui avait refusé de participer aux élections en
2020.
Il y avait une élection
récemment.
Récemment, en avril. Et moi, j'ai pas du tout aimé ça parce que je me dis que le Togo va souffrir, les Togolais vont souffrir jusqu'à quand. Mm-hmm. Et donc moi, comme tu me connais, moi je donne ma position sur la chose en tant que journaliste. Mm-hmm. Je n'ai pas d'a priori quoi. Du moins, Abeyomé, il est pour moi comme un grand frère parce que j'y vais chez lui à la maison là-bas pour certaines interviews. Mmh. Il est là avec son agisote, je parle de la cigarette, dans son petit bureau là-bas. Et j'y allé là-bas au moins 2, 3, 4 fois. Tu connais Agbouibo plus. Mmh. Parce qu'Agbouibo, dans un mois, je peux le fréquenter au moins 6 fois. Mmh. Et donc, moi, tous les messieurs Agbeto, tout ça là, moi, je les ai félicités pour tout ce qu'ils font. Tout le monde travaille de son côté pour que le Togo soit libéré. Mm-hmm. Je ne suis pas prêt ce matin à lancer des piques à qui que ce soit. Mm-hmm. Si je veux le faire, je vais faire mal, comme tu me le connais. Mais la question que j'ai voulu poser à M. Siliadin, moi je le connais depuis, peut-être lui ne me connaît pas, mm-hmm. c'est est-ce qu'il comprend au moins la réaction de ses collègues du MPDD, parce qu'il n'est pas au pays. Mm-hmm. Parce qu'il y a une tendance qui dit souvent que c'est ceux qui sont près du feu qui sentent réellement la chaleur. Mais pas ceux qui sont loin. Moi, en toute sincérité, je ne maîtrise pas leurs problèmes à l'interne. Depuis qu'Agbou m'a quitté ce pays, je ne maîtrise pas le temps où la DMP a été créée, avec la Djamagbou, tout ça là.
Tout à fait.
Moi, je suivais de loin seulement. Mais la DMK, je me dis, est-ce que ceux-là qui sont ici, avant que lui ne vienne, est-ce que lui-même va se poser la question, est-ce que ces gens-là qui sont là, qui sont sur le terrain, qui connaissent le feu, est-ce qu'ils vont accepter que je vienne? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième, c'est que il a dit quelque chose d'essentiel. Il dit qu'il est souvent en communication avec le président. Même certains écrits, certains courriers, il appelle toujours. Bon, ça c'est... Moi, je peux me dire que d'aucun... Ceux-là croiraient que c'est dans l'astral. Parce qu'Agbeyomé a toujours travaillé avec des gens qui sont ici, les Adja, les Djamagbo qui est de la CDPA, bien sûr, mais dans le regroupement, les Paul Michel Beto qui a été emprisonné à cause de ça. Et donc, mais lui aussi, c'est un combattant.
Puisqu'il est, il est là-bas, il fait. Parce que souvent aussi on néglige ce que ceux qui sont de la diaspora font pour que la lutte émerge. Il y en a qui mobilisent les fonds, il y en a qui envoient des courriers comme les Kofi Annan et autres le font aujourd'hui. Et est-ce qu'il. J'ai suivi un audio de Michel Béton il y a deux jours. Est-ce que la question que les Michel Béton vont se poser, depuis quand Agbelome t'a confié un parti et tu viens de nulle part et tu nous dis que tu vas coordonner? C'est la question que je veux.
D'accord.
En tant que quelqu'un de novice dans votre.
Bien sûr.
Voilà. Okay. Parce qu'on se dit que c'est nous qui sommes près du feu.
Monsieur Silaidin.
Oui. Voilà. Je comprends sa question et je le remercie pour cela, parce qu'il faut un travail de vérité. C'est humain qu'il réagisse comme ça. Mais si tout le monde avait réagi comme ça, me disant « on ne te connaît pas » et tout ça, déjà encore une fois, j'aurais expliqué, mais le bureau politique, quand j'ai été désigné, je n'ai pas voulu vous corriger, mais j'ai été désigné président par intérim. Sur les 12 qui étaient éligibles à voter, 11 ont approuvé mon choix. Et il y a eu une abstention.
Ici, à Lomé.
À Lomé. Okay.
Ah, ok.
Donc, ça n'est pas, je ne suis pas un usurpateur, première chose. Deuxième chose, souvent quand on confond le terrain politique avec la superficie nationale. Pour un parti politique, le terrain, c'est tout l'espace-temps où se jouent les enjeux de ce parti. Je ne suis pas loin du feu. Parfois, c'est nous qui orchestrons le feu. Il y a quelqu'un qui a eu l'outrecuidance de me dire que je suis, on le dit à Mina, je suis venu. Et je lui ai dit non. Le MPD d'aujourd'hui, les gens ne voient que l'affleurement. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe. Mais Agbelome, c'est une histoire. Les gens ont maintenant jouissent de cette histoire. Mais il a fallu construire ensemble, pas à pas, cette histoire. Donc, effectivement, je comprends leur réaction. Je peux comprendre la réaction de certains. Et j'ai même dit cela. Je suis même allé jusqu'à dire, je ne viens pas pour prendre quoi que ce soit. C'est les tests qui parlent. Je ne suis pas venu de nulle part. Hein, on ne m'a pas confié. La question ne peut même pas se poser. Président du MPDD, Agbelome. Premier vice-président, Adja. Deuxième vice-président, Jonas Siliadin. Troisième vice-président, Madame Amouzou. Les statuts disent clairement que quand le président est empêché définitivement, l'intérim est assuré par le premier vice-président ou à défaut, quelqu'un qui est choisi entre les vice-présidents et le secrétaire général. Ce ne sont que ces gens-là qui sont éligibles. Ce n'est pas moi qui ai fait partir Adja. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que le président disparaisse. Donc pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Je n'ai pas fait des pieds et des mains. Mais je ne suis pas non plus une variable, une entité négligeable. Je ne peux pas être là, les tests disent ce qu'il faut, et je m'arrête là en disant que non. Moi, depuis le décès de ma mère, j'ai eu un regret, c'est de ne pas être souvent au Togo. Donc maintenant, c'est plutôt les gens de l'extérieur qui me demandent où est-ce que tu vis vraiment. C'est quand je sors du Togo qu'on dit que je vais en vacances et tout ça. J'ai des activités ici, je suis ici depuis des années jusqu'à ce que mon père décède il y a quelques années. Donc ce problème, je le comprends très bien et c'est humain. Et on aurait pu en discuter. D'autant plus que je ne revendique pas la présidence définitive du MPDD. Et je prends témoin la mémoire de mes parents. Je ne revendique pas. Au jour où je suis assis, si on va au congrès, celui qui est le meilleur d'entre nous, sur lequel les militants ont confiance, c'est bien.
Et ce congrès, c'est très bientôt.
Très bientôt. Nous devons faire le congrès avant le 15 octobre. D'accord. Mais nous espérons le faire très vite.
Ok. Et Michel ?
Non, moi, je connaissais un peu M. Siliadin, puisque nous étions ensemble à l'université. Je ne sais pas s'il se rappelle de moi. Quand il a été désigné président par intérim, bon, j'ai dit, bon, comme pendant longtemps il était le fils spirituel d'Agbelome, ce n'est pas surprenant. Parce que lui, depuis ce que j'ai appris depuis le collège même,
oui.
Il était déjà avec M. Le
lycée.
Avec Agbelome. Mais moi, je vais au-delà de ça. C'est pour lui demander de savoir en tant que politique, comment il voit chaque fois qu'un leader d'un parti politique disparaît, les querelles qu'on nous habitue maintenant. On commence par être habitué à des querelles chaque fois qu'un le premier responsable disparaît, il y a des querelles. Comment il interprète ça par rapport à la scène politique togolaise?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes, qui choisissent la politique parce qu'ils ont envie d'être dans la lumière. Ils ne choisissent pas la politique comme un combat, une conviction qui est toute dédiée au service des autres, au service du grand nombre. Ça, c'est ce que j'appelle le chemin de la vocation politique. Et donc, et ces gens-là, ils confondent le combat avec la célébrité, avec l'exposition à la lumière. Et donc, lorsqu'une opportunité se présente, au lieu d'analyser ce qui est objectivement utile et de suivre cette voie, même si ça nous est défavorable, ils préfèrent suivre la voie qui les expose à la lumière, qui leur donne une place au soleil. Généralement, c'est un biais. Parce que les gens pensent que c'est comme ça qu'on est important, c'est comme ça qu'on est ceci. Je vous sais gré, vous avez dit que je suis le fils spirituel d'Agbéomé. Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour moi de rester fidèle à Agbéomé depuis les années 90 jusqu'à ce jour, de rester loyal et fidèle? J'ai fait l'exil avec lui pendant que ma femme et mes enfants étaient restés ici pendant 3 ans. Je ne les ai pas vus. Les gens pensent que c'est facile de suivre quelqu'un, quelles que soient les situations. Non, moi aussi j'ai payé de ma vie. J'aurais pu. Et il y a des membres qui me connaissaient très bien. Nous avons des relations personnelles, lui et moi. Le président Faure, même si j'ai pas la même relation avec Yadema, il sait qui je suis, comme vous aussi, puisqu'ils savent. Les autorités me connaissaient bien. J'aurais pu un jour dire, bon, allez, moi j'arrête, je continue mon chemin, seul, je vais faire ici. Agbébo, vous parlez de notre aîné Agbébo. Agbébo, c'est un grand frère, un aîné avec qui j'avais de très bonnes relations. Donc, le chemin que j'ai choisi est un chemin de sacrifice de ma propre ambition, de mon propre parcours personnel, en me mettant derrière quelqu'un pour le soutenir, l'orienter, le conseiller, l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit devenu ce qu'il est devenu. Donc, moi, si je vous réponds, c'est que les gens ne savent pas faire sacrifice de soi pour une cause collective. Les gens se précipitent tôt. Si, par exemple, quand le président est décédé, si tout le monde avait compris...
Personne ne veut rester derrière l'autre.
Derrière l'autre. Mais moi, j'aime beaucoup la place de derrière. Je vais vous dire pourquoi. De derrière, on voit mieux.
Ah, bien sûr. Ça me ressemble. Hein.
De derrière, on voit mieux. Moi, je suis un faiseur de roi. Vous allez voir que je ne suis pas très à l'aise quand je suis devant. C'est vrai que je sais parler, je peux guider les gens. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est d'observer. Les gens connaissent une posture de moi. C'est que j'ai toujours les bras croisés derrière. C'est l'attitude d'observation et d'orientation. Moi, je préfère donner des conseils, guider, orienter, analyser, plutôt que d'être le premier. Quand on est le premier, on n'a plus de recul. Vous voyez un peu. Et donc, moi, j'aurais été heureux que Paul ou d'autres prennent le flambeau, mais en me donnant les gages, en donnant le gage à tous les militants de suivre un chemin qui est conforme à notre ligne. En ce moment-là, nous l'aiderons. Nous les aurions aidés. Comme nous avons aidé le président, je ne cherche pas à être président du MPDD. Je cherche à ce que le MPDD échappe à cette règle-là qui fait que quand le président disparaît, c'est la disparition du parti, c'est les grimaceries, comme l'a dit
Amor. Mais est-ce que nous ne tendons pas vers là, peut-être?
Non, j'ai la majorité du MPDD avec moi. Les élus, vous pouvez les appeler, nos élus, nos maires, nos conseillers municipaux ont une structure qui est dirigée par M. Olivier Amouzou. Eh bien, appelez M. Olivier Amouzou, demandez-lui quelle est la position des élus du parti. Le bureau politique. Demandez quelle est la position du bureau politique. Sur le terrain, moi j'ai Ariane Troga au téléphone régulièrement, il est de Cloto. J'ai des gens de Blita, de d'Apaon avec moi. Donc, sur tous les terrains du territoire, nous n'avons pas de problème. C'est quelques monsieur sur deux, comme dirait le président Adévan, qui s'agitent.
D'accord. Oui, Michel voulait enchaîner avec une autre question.
C'est de savoir, nous avons appris par la voix des médias, des réseaux sociaux et autres, qu'il y avait un gouvernement qui a été formé par le feu président Agbéomé. Que devient ce gouvernement parce que dans ce gouvernement, il y avait un monsieur, c'était le premier ministre.
Ben Jagba.
Non, celui, le Bassa, il est de Bassa.
Nadjambé.
Nadjambé, c'était notre délégué à l'université.
À l'université, on l'appelait voilà. Bassi Madani.
Voilà, juste... donc, que devient ce gouvernement?
Ali Belhadj à l'époque. Vous savez, il y a déjà eu un précédent dans l'histoire du Togo où il y a eu un gouvernement qui a été formé à Cotonou et présidé par le professeur Savi de Tove. Et puis progressivement, on n'en a plus entendu parler. Vous leur poserez la question. Mais moi, personnellement, en tant qu'homme politique et en tant que personne, le président est élu seul. Il y a pas, c'est pas comme un député où il y a le président et le suppléant. On est d'accord ? Celui qui porte le... qui incarne la victoire réclamée par ce gouvernement, c'est Agbeume Kodjo. Agbeume n'est plus là. Qu'est-ce qui justifie l'existence de quelque chose comme celui-là? Même s'il faut mettre en place une structure qui combat pour l'alternance, qui réclame le respect de la vérité des urnes, ou qui essaye de faire droit à la mémoire du président Kodjo, il faut l'appeler autrement. Il faut structurer les choses autrement. Et en fait, hein, il faut pas faire de la politique symbolique. C'est bien la politique symbolique, mais ça n'a aucune emprise. Depuis que cette structure existe, il a été reconnu par qui? Par quelle autorité? Vous savez, il y a le Fonds Polisario, il y a l'histoire du Fonds Polisario. Vous avez vu que le Fonds Polisario a été reconnu par l'UIA sous Edem Kodjo.
Tout à fait.
Vous avez le problème de l'OLP.
77.
Oui. Voilà. L'OLP a été reconnu à l'ONU. C'est à partir de ce moment-là que vous avez une existence internationale. Vous ne pouvez pas vous réunir entre vous parce que vous vous donnez le nom de quelque chose que vous devenez la chose.
Alors, est-ce que c'était une erreur stratégique?
Je ne suis pas habilité à le dire parce que ça reviendrait de facto, ce que je vais dire reviendrait de facto à m'ériger en juge de ce que les uns et les autres font. Ce que moi je pense, c'est que dans la posture du président Kodjo, c'était un instrument utile pour mettre de la pression. OK? Dans sa posture à lui. C'est une posture stratégique. Et ce n'est pas une posture qui doit être une fin en soi. C'est, comme le dit Kant, c'est une démarche hypothétique. Ce n'est pas la finalité. Or, je pense que le combat sur les 3 années qui ont suivi n'a pas permis d'utiliser ce levier-là à bon escient ou avec le résultat escompté. Mais il ne faut pas confondre les moyens avec les fins. Ce que nous voulons pour le Togo, c'est l'alternance, c'est la démocratie, c'est un État républicain orienté résolument vers la démocratie qui fasse en sorte que tous les citoyens vivent bien. Ça, c'est l'objectif de tout. C'est l'alpha et l'oméga. Maintenant, tout ce que nous allons faire après, ce ne seront que des moyens. Et une fois que vous avez utilisé un moyen jusqu'au bout, vous analysez les résultats, il faut être courageux pour reconnaître si les moyens sont adaptés, ont été efficaces, ont atteint les objectifs. Si oui, vous poursuivez. Sinon, vous changez. Mais rester dans un truc mystico-religieux disant que Dieu a dit à la DMK de ne pas participer aux élections et c'est pour ça qu'on n'y va pas. Dieu a dit que...
Ah, c'était de l'illusion.
Moi, je pense que... Oui, moi, nous croyons tous en Dieu. Moi, j'ai voulu être prêtre, j'ai pas pu avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Mais je crois profondément en Dieu. Je crois, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Mais si vous continuez cette logique-là, ça veut dire que vous excluez les athées de votre combat. Ou même, DMK, on dit Monseigneur Kodjo. Monseigneur Kodjo, c'est une figure de l'église chrétienne. Et pas toute l'église chrétienne, de l'église catholique. Si vous faites de la politique et que votre marqueur est ce élément qui est plutôt clivant, les gens de la mosquée, ils sont où? Est-ce qu'ils se reconnaissent il faut dire ce qui est. Maintenant, nous sommes dans une séquence où les gens pensent qu'ils sont courageux parce qu'ils sont allés en prison, ils sont ceci et tout ça. Non, le courage, c'est vrai. Aller en prison, c'est pas une sinécure. Mais le courage, c'est surtout regarder la vérité en face.
Alors, c'est vrai que nous allons nous intéresser à l'opposition dans son entièreté par rapport à cette lutte alors vers l'alternance dont vous parlez tout de suite. C'est vrai que l'opposition est dans cette lutte depuis un temps, mais toujours est-il que l'objectif n'est toujours pas atteint. C'est quoi le souci?
Alors, vous savez, je ne sais pas si les Togolais se souviennent, j'ai écrit un livre en 2014, Togo, démocratie impossible, qui a été publié par les éditions L'Harmattan. Et je posais réellement le diagnostic, le problème. Notre problème au Togo, c'est l'absence de méthode. Ce qu'on appelle une méthode, c'est définir des objectifs réalistes, mesurables, atteignables, ok, simples à comprendre. Une fois qu'on a défini ces objectifs, il faut mobiliser les moyens et une démarche vers ça. Et suivre rigoureusement le plan en faisant à chaque fois des bilans pour voir s'il faut corriger un peu la marche et tout ça, la méthode. Mesurer 9 fois, scier la 10e fois. La méthode. Agbebo incarnait bien cette méthode-là. La méthode. Deuxième chose, l'humilité. L'humilité est importante dans toute entreprise humaine. Parce que nous ne maîtrisons rien dans l'univers. Nous ne maîtrisons rien parce que même la façon dont vous voyez le monde est fausse. Parce que cette façon a été dessinée par vos biais cognitifs. Par ce qu'on appelle vos croyances aux sciences sociologiques du terme. Donc, c'est quand nous regardons, nous sommes ensemble à regarder la même chose, que nous corrigeons ce biais, parce que les biens des autres ne sont pas les biais des autres, et des uns ne sont pas les biais des autres. Et c'est à ce moment-là que nous avons une vision claire de la chose. Or, pour faire travailler les gens ensemble, il faut de l'humilité. Les premiers dirigeants doivent montrer l'exemple de l'humilité. Et distiller cette humilité-là au sein de leur troupe.
Ah, vous pensez que les acteurs politiques ne sont pas humbles, surtout de l'opposition?
Pas que de l'opposition, hein, en règle générale. En règle générale, les hommes politiques ne font pas preuve d'humilité. Et, or, c'est nécessaire. Et encore au Togo, vous savez, vous connaissez bien les acteurs togolais comme que moi. Quand ce n'est pas moi au devant, donc ce n'est pas bon. Et ça a créé des problèmes depuis. En plus, la démocratie est née dans une démarche manichéenne, contre-productive. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on nous a servi à Ethereum Inter, le timonier national, GG Yadema et tout ça, j'en ai ma part. Okay? Mais quand on a ouvert les choses, j'allais dire presque brutalement, parce que c'est avec la lutte que nous l'avons arraché en 90, eh bien c'est comme s'il y avait une cocotte qui a explosé. Donc, Les gens qui avaient peu de culture politique sont confrontés à une réalité qui est la démocratie naissante. Donc les militants ont divisé le pays, enfin l'échiquier politique en deux. Ceux qui sont pour la démocratie et ceux qui sont des vendus. Et à partir de ce moment, les leaders, au lieu de corriger cette vision et de dire que ce n'est pas comme ça que ça marche, ils se sont accommodés de ça et d'ailleurs ont cultivé cela. De sorte que si vous n'êtes pas dans le sens de ce que dit l'opinion, vous êtes un vendu. Kofi Go, à la sortie de la conférence nationale, la conférence avait prévu d'ouvrir la bretelle qui va de Colombe de la Paix, qui traverse le camp RIT. Donc, lorsque Kofi Go, confronté à la réalité, est revenu en arrière, au lieu d'expliquer que c'est ça la réalité politique, les autres qui n'étaient pas au gouvernement ont encouragé les populations à le critiquer en lui disant que c'est un vendu. Tout est né de là. Donc aujourd'hui, tous les leaders politiques, au lieu de parler de leurs convictions, de faire en sorte que les choses marchent, eh bien tout le monde s'aligne peu ou prou sur ce qui ferait leur popularité. Et ça, c'est contre-productif.
Ah, d'accord. Jonas Siliadin, nous allons parler maintenant de cette situation que vivent les populations alors du nord du pays. Je vais lui parler alors du terrorisme. Et on se souvient encore de cette dernière attaque. C'était alors le 20 juillet dernier, bien sûr. Alors, comment vous avez apprécié cette situation?
C'est triste. Et c'est l'occasion de présenter nos sincères condoléances aux familles de ces soldats, aux forces de défense et de sécurité dans leur ensemble, et au premier rang de ces forces, le chef des armées. Parce que ceux qui sont tombés, ce ne sont pas des militaires de tel parti ou de tel autre parti. Si vous avez vu, nous avons vu les images circuler, vous avez vu le drapeau sur leur tenue.
C'est des Togolais.
C'est des forces de défense de la nation qui sont tombés, et donc c'est tout le Togo qui est touché. Donc il faut savoir avoir une mémoire recueillie pour ce sacrifice, pour ces soldats-là. Et c'est l'occasion aussi pour les dirigeants de prendre conscience d'une chose. Souvent, quand ça tout va bien, on fait de l'exclusivisme.
L'exclusive, oui.
On dit, nous, c'est nous. On ne veut pas des autres, on ne veut pas ouvrir le jeu politique. On veut conserver le pouvoir dans un seul cercle. Mais quand le moment de sacrifice arrive, on se rend compte que c'est toute la nation qui paye le prix. C'est important. On ne peut pas lutter contre un phénomène comme le terrorisme si on n'ouvre pas le champ politique pour que toutes les ressources, toutes les énergies puissent penser la solution. La solution sera d'autant plus pertinente qu'elle est vue par tout le monde.
Vous avez l'impression que toutes les couches ne sont pas impliquées dans cette lutte?
Non, parce que tout part de la gouvernance. La gouvernance, aujourd'hui, est exclusivement entre les mains du UNIR. Est-ce qu'il y a un préfet qui est hors de la mouvance ou de la portance UNIR? Est-ce qu'il y a un chef de corps qui, par exemple, organise les choses comme il le veut? Eh bien, il rend compte d'une manière ou d'une autre. En fait, ce qu'il faut, c'est de faire en sorte que le Togo appartienne à tous les Togolais et que les Togolais comprennent que quand ça va bien, c'est pour tout le monde. Quand ça va mal, c'est tout le monde qui doit se mobiliser pour ça. En matière de terrorisme, il y a beaucoup le renseignement qui compte. Vous voyez, le renseignement est très important. Or, si vous avez le peuple ou dans la population, une portion qui a une forme de ressentiment ou de rancune contre l'institution centrale, parfois, les pistes de montée, de remontée d'informations, les courroies sont un peu engorgées ou sont détournées. Il n'y a pas de collaboration loyale, ce que je veux dire, sur le terrain. Et je reviens à mon idée principale, c'est que n'importe comment, ces situations montrent que le Togo est en difficulté sur les questions de terrorisme et les gouvernants doivent faire en sorte que nous pensions le problème de manière collective. Et c'est ce que je pense par rapport à ça.
D'accord, oui, Ambrose, c'est vrai, cette question alors du terrorisme, on en a débattu ici au Club de la Presse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit quand même arriver à impliquer les uns les autres, toutes les couches de la nation quand même pour cette lutte.
Oui, moi j'ai déjà, dans la parution de mon journal du mardi, je devais paraître aujourd'hui, mais c'est pour une raison stratégique que j'ai dû paraître le mardi. Je citerai déjà qu'il faut une solution radicale pour lutter contre le mal. Ce qu'il dit que j'ai pris en considération, c'est le terrorisme devient, c'est une nébuleuse, donc ça doit toucher, ça devient une question transversale. Au point que si tout le monde n'est pas impliqué, ce serait compliqué pour nous, pour l'État togolais, de venir à bout de ces, je les appelle des chiens galeux sans queue. Pour tout simplement dire que les gens sont frustrés dans le pays. Vous voulez l'accompagnement de la population. D'accord, que la population, elle, vous demande de partir parce que vous en avez tellement fait du temps que les gens veulent juste avoir un petit nez pour respirer. Ne serait-ce que respirer de l'air politique. Un autre air politique, quoi. C'est-à-dire que les gens veulent autre chose. Mais ça n'occulte pas le fait que les gens vous soutiennent de lutter, surtout pas ceux qui dirigent, mais ceux qui sont les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire ceux qui sont devant le feu, ceux qui combattent ces voyous-là, là-bas. Mettre les moyens à leur disposition. Nous nous disons que tout le matériel de défilé qu'on nous montre ici le 27 avril, il faut mettre ça à la disposition de l'effort de défense et de sécurité. Les drones achetés en Turquie, tous les hélicos, tout ça là. Mais il faut cadrer la zone. C'est une zone qui n'est pas aussi grande. Le Togo est à combien? On est à 8 millions. Là-bas, il serait peut-être à combien? Peut-être à 300 000. Mais il faut cadrer la zone depuis Saint-Cassé, collaborer avec l'autorité burkinabé et tenailler le mal. Il faut le tenailler. Parce que si déjà nous avons Saint-Cassé, les autorités burkinabé qui ont une logistique puissante actuellement avec la coopération avec la Russie, qui voient beaucoup de choses dans l'ombre, collaborer avec eux au niveau de la frontière du Nord. Et maintenant, vous tenaillez les gens partis déjà de la région de la savane, région de la Kara, vous les tenaillez. On me dira que ben, ce n'est pas aussi facile. D'accord, moi je ne suis pas militaire. Mais je dis ce que le Togolais lambda, un novice ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, peut dire. Quand vous contingentez les gens, c'est-à-dire c'est que vous les tenaillez et vous les pulvérisez. C'est vrai que les dangers se trouvent au niveau des villages qui sont là-bas. Il y a des gens qui habitent ces villages-là.
Et des villages qui sont alentours.
Il faut suivre les bouviers.
Les bouviers, ils prennent souvent un couloir avec les bœufs. C'est les bœufs que les gens cherchent. C'est leur richesse. Quand vous les suivez, vous savez que il a fallu du renseignement. C'est aussi un élément très, c'est le premier élément le plus important. Les renseignements, c'est souvent ceux qui vivent dans les villages là-bas. Mm-hmm. Même au sein des bouviers, ils vont vous donner des informations, vous les tenaillez. Parce que là, à cette allure-là, surtout avec l'attaque d'Agbolouvoué, la dernière fois où on a égorgé les gens, je me dis que ce n'est pas un acte terroriste. Et donc, il va falloir prendre le taureau par les cornes. D'abord, en communiquant. Le gouvernement a opté pour ne pas communiquer, on nous l'avait dit, pour des raisons stratégiques, éviter qu'on fasse une publicité gratuite à ces voyous-là. D'accord. Mais il y aura le colon qui fera toujours la publicité gratuite à ces colons. Parce que leurs médias vont relayer, on ne sait pas qui leur donne l'information, on ne sait pas où ils ont les informations. On vous dira qu'on a tué telle personne sur RFI, on a tué sur France 24. Alors que vous ne communiquez pas ici. D'accord. Déjà sur les réseaux sociaux, les gens en savent. Tout, oui. Tu vois. Et donc, il serait bien que l'État togolais redéfinisse une stratégie bancable pour pouvoir mettre en déroute ces voyous-là. Moi, mon problème, il faut la peine de mort pour le terroriste. Je suis désolé.
D'accord.
Le terroriste, je n'ai pas fini.
D'accord, rapidement.
Le terroriste, il vient, il tue, il pille. Et donc, il faut réserver, pas une cour d'assises, il faut leur réserver la méthode Shaka Zulu. La méthode Shaka Zulu consiste à amener le criminel et à le mettre une flèche sur les anus et en haut. C'est-à-dire qu'il faut, finir avec le terroriste. Il faut les pulvériser là.
D'accord. Michel, oui, sur cette question alors de terrorisme, c'est justement tel que je le disais, nous en avons quand même épilogué, nous en avons discuté tellement ici au Club de la Presse, mais aujourd'hui il faut l'implication quand même de chaque couche hein, pour que cette lutte prenne.
Ah oui, je pense que le gouvernement depuis le début, hein, depuis la première attaque, a fait de telle sorte que toutes les couches hein, de notre pays soient associées à la lutte. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, toute obédience confondue, en tout cas les femmes, les jeunes, tout le monde. Et vous avez appris avec moi au début la création du CIPLEV qui permet d'aider les populations qui sont dans ces localités-là. La réhabilitation des infrastructures sanitaires, scolaires et tout. Tout ça là pour faire en sorte que les populations qui jadis peut-être vivaient pas dans de très bonnes conditions puissent voir leurs conditions de vie améliorées et aider les forces de sécurité qui sont envoyées là-bas. Et c'est vrai que à chaque fois nous demandons le gouvernement de faire beaucoup plus d'efforts. Ça c'est il en fait déjà, mais il doit redoubler d'ardeur et puis le tout dans une ferveur nationale, aider et manifester notre solidarité aux forces de sécurité qui ma foi combattent dans des conditions aussi difficiles, parce qu'il y a des gens peut-être par ici qui n'ont jamais mis pied dans ces localités parce que c'est des zones très difficiles d'accès. Et quand on parle, bon, les gens pensent que c'est rien du tout, alors que la situation qui prévaut là-bas est un peu compliquée. Et malgré les moyens dont disposent les forces de sécurité, ces criminels-là n'hésitent pas à mener des incursions. Mais de toutes les façons, nous avons confiance à nos FDS qui, ma foi, imposera un jour le silence dans cette localité. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une lutte facile. Et même les meilleures armées au monde, quand à chaque fois qu'elles sont confrontées au terrorisme, ce n'est pas aussi aisé. Seulement, disons, courage à nous. D'accord. À nos forces de sécurité. D'accord. Et voilà, tout compte fait, la victoire sera de notre côté.
D'accord, okay.
Alors, et juste rapidement, par rapport à ce qu'ils disent, je veux compléter un truc. Nous avons, il y a un problème que nous n'arrivons pas à faire au Togo, à régler le problème au Togo. En fait, le gouvernement doit savoir qu'il est redevable. La notion de redevabilité, il est redevable vis-à-vis de tous les acteurs. Par exemple, une initiative aurait été quoi? Depuis que la lutte contre le terrorisme a commencé, le chef de l'État devrait instruire le Premier ministre, ou lui-même, comme c'est lui le chef des armées, à recevoir au moins une fois dans l'année tous les partis politiques les dirigeants de partis politiques dans une assise où il explique toute la stratégie qui est mise en œuvre, sans rien dévoiler de l'élément tactique, des éléments tactiques, mais de la stratégie à tous ces acteurs et recueillir leur avis. C'est comme ça que cette information ou cette façon de faire va donner un signal à tout le monde au Togo que la lutte est consensuelle, elle est globale, elle est portée par la nation. Ils devaient, par exemple, le faire. Peut-être même prévoir que le chef d'état-major qui dirige les choses, par exemple, projette quelques éléments techniques pour que les gens soient convaincus que.
On a l'impression que c'est le gouvernement qui fait ça, lui.
Voilà, on ne sait même pas si c'est le gouvernement. On pense que c'est juste quelques troupes qui sont là-bas. On ne voit pas que c'est tout un effort. En tout cas, ça n'est pas perçu comme une action coordonnée, stratégique et de première importance.
Mmh. Alors, Jonas, on va quitter le sujet. Je voudrais que vous vous prononciez alors sur ce sujet rapidement avant qu'on aille vers nos auditeurs pour recevoir aussi leur point de vue alors sur ces sujets débattus ici au Club de la Presse. Je veux qu'on s'intéresse un tout petit peu à cette question alors de la nouvelle constitution. On sait très bien que depuis le 6 mai dernier, il y a une promulgation alors de cette nouvelle constitution, ce qui a basculé le pays alors dans la nouvelle république. Et après même d'ailleurs les élections, on sait également les résultats lors de ces élections. Et ce qui est constaté ces derniers temps, moi quand je suis à la télévision nationale, c'est que c'est des députés de UNIR qui vont plus sur le terrain, puisqu'ils sont en intercession, ils vont plus alors sur le terrain pour expliquer cette nouvelle constitution quand même aux populations. Et comment vous appréciez cela?
Bah, c'est parce qu'on inverse les choses tout simplement et ce n'est pas normal. J'ai dit dans une chaîne concurrente que le régime parlementaire en lui-même ne pose pas de problème. Que les dirigeants, les premiers dirigeants du pays, pensent à changer de régime parce qu'ils estiment de leur point de vue que c'est le meilleur régime, ça n'est pas encore grave. Mais dans ce cadre-là, il fallait commencer déjà par faire la pédagogie, expliquer pourquoi vous voulez basculer. Faire de la concertation, c'est-à-dire recevoir tous les dirigeants des partis politiques, des représentants de la société civile, et lancer un débat national. Sur la base de ce qui sort de ce débat, on décide si on continue le projet de réforme ou si on l'abandonne. Première étape. Si on avait fait ce débat et que, malgré tout, le chef de l'État considère que, ou les institutions considèrent qu'il faut poursuivre le débat, en ce moment-là, il faut voir ce qu'on appelle la constitutionnalité, donc les règles constitutionnelles. Normalement, dans le cas du Togo, le passage à la 5e République aurait dû passer par le référendum. Pourquoi? Parce que le mode de désignation du président qui était au suffrage universel, direct, change. Et c'est écrit dans la Constitution que si on veut toucher à ce mode-là, il faut passer par le référendum. À partir de ce moment, il faut faire les choses dans les règles. Le gouvernement aurait dû passer d'abord par la consultation, concertation et tout ça, puis sur cette base-là, déclencher un référendum pour ou contre. C'est ce que nous avons fait en 92. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est une forme d'ironie. Les résultats auraient été les mêmes si on était passé par le référendum.
Ah bon?
Bien sûr. Vous savez comment les choses se passent. Donc, il faut une certaine exigence en matière de gouvernance pour faire en sorte que le gouvernement, ceux qui me dirigent, montrent bien qu'ils savent qu'ils sont redevables. Cette façon de faire. Et d'ailleurs, dans un premier temps, lorsque le président refusait de promulguer, ça a laissé entrevoir dans l'opinion un petit espoir. On se dit, peut-être qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec le mode. Il aurait pu tout simplement demander de reprendre le projet à zéro et de passer par le référendum. Il n'a pas fait. Il a promulgué. Vous savez, nous connaissons notre pays, nous connaissons l'histoire, nous sommes dans la 5e République. Je ne vois pas, par rapport à l'histoire que nous avons vécue jusqu'ici, et par rapport au rapport qu'il y a sur le terrain, comment nous ferions autrement. Les députés qui sont élus...
On ne peut plus revenir en arrière?
Difficilement.
D'accord.
Justement, puisque personne ne leur dit rien, ils ont leur... les gens ont la 5e République. Tout le monde ne lui dit rien. Il faut l'appliquer, on va voir. Nous sommes actuellement dans la 4e République. Le chef d'État, Fonia Simbi, est toujours appelé président de la République. Et non président du Conseil des ministres. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas encore les autres membres de la HAC qui ont rejoint la HAC. Il n'y a pas le Sénat. Les conseils régionaux et conseils municipaux n'ont pas encore continuer leur travail au niveau de la Sénat. La Cour constitutionnelle n'est pas encore totalement, je crois, remplie, parce que le Sénat doit désigner aussi certains là-bas. Et on n'a pas encore désigné le président de la République qui ne sera plus jamais élu au suffrage universel direct.
Est-ce que c'est pas l'application des dispositions?
Le Togo est en faillite par les institutions de la 5e République qui n'existent pas.
D'accord.
Donc nous sommes en 4e République.
Ok.
Ou 4,5e.
D'accord. D'accord. Et maintenant, nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent à entrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Nous sommes toujours avec Jonas Siliadin. Il est le président par intérim du MPDD, le parti MPDD. Et nous sommes aussi avec nos confrères journalistes Ambroise Kwanzo et Michel Tchadja. Vous avez maintenant la parole. Vous pouvez intervenir sur le 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Nyamavo.
D'accord, allez-y.
Vous savez, unir... La dernière fois, je suivais la caricature du régime gondouanais, où on enseigne aux élèves que la girouette indique la direction du vent. C'est-à-dire que c'est le vent qui souffle et la direction va à sa direction. Maintenant, au Gondwana, c'est la direction qui vient par ici. Il demande au vent de venir là-bas. C'est ce que UNIR est en train de montrer sur le terrain. Ils vont dire maintenant au peuple que venez par ici, c'est ça qui est bon. Or, c'est le peuple qui doit gouverner la girouette. Pendant ce temps, les gens, les politiciens sont devenus des transhumants. Ils vont à l'UNIR pour se trouver un siège. Nous sommes d'accord. Et créer des arbres de soie. C'est-à-dire que je suis ici au sommet, j'amène quelqu'un, je fais rentrer ceci. Et ainsi va la République. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Allô?
Alors, bonjour, monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Comment allez-vous?
Diminuez le poste, enfin le volume du poste qui est à côté de vous, s'il vous plaît.
Ok, c'est bon maintenant?
Oui, c'est bon.
Votre... C'est Karim, le taximan.
Ah, Karim?
Oui.
Allez-y.
Je salue Ambroise, je suis invité. Merci. Je voulais revenir sur un sujet de les maires qui sont à l'ONU. En fait, on ne sait plus quoi. Ils sont en train de faire dans ce pays. On les a votés bientôt, ils ont déjà fait 5 ans. Et il y a d'autres maires qui n'ont rien fait. Vous voyez la présence qui est là-bas. C'est là-bas, son excellence fort travail. Le feu rouge de GPA s'est gâté plus de 3 mois. Le feu rouge est là-bas. Alors qu'on a appris que c'est la mairie qui doit réparer ça. Hier, il y avait un accident qui s'est passé là-bas. Vous prenez la route à Dogomé. C'est rempli avec du sable. On ne balait plus. La route est comme ça. Vous arrivez au niveau du Zangira. La route qu'on a fait, c'est devenu du sable. Vous prenez aussi, mais c'est des trous seulement. Bon, la mairie fait quoi dans ce pays? Tous leurs problèmes, on n'a qu'à les appeler excellence. Quand ils sont dans leur pick-up, ils se croient comme ils sont Dieu. Mais il faut qu'on arrête ça dans ce pays. Un mairie n'est pas capable de louer un gradeur par jour, au moins racler la route. Mais qu'est-ce que vous faites? Démissionner, quitter? Après, tout ce qui vont organiser, rester quelque part, unis. Quand on est unis, on est fort. Vous ne faites rien. Vous faites honte à ce peuple. Merci.
Merci beaucoup, Karim, pour cette interpellation. 90 86 35 35. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ouais, je vais tout complètement bien.
C'est Basile. Allez-y, Basile.
Moi, je pense que ma gère. Prendre le volet constitution là. Bon, je pense que ce machin de APC là a mis la confusion dans la tête de beaucoup de gens. Puisqu'il est professeur, tout ça là, ils confondent les choses. Puisque c'est le rôle de APC, hein, parce qu'on te dit que ce cri qui est là-bas, tu peux dire ça autrement. Et ce n'est pas toutes les fois que les gens vont dire ce qui est là-bas autrement. Quand ils viennent sur les antennes, vos confrères, moi je dis qu'ils ne sont pas, le gouvernement n'est pas, le parlement n'est pas habilité à changer la concession parce que l'article 59 l'interdit. Il me répondra en disant qu'il y a le sacre à quatre qui dit le contraire. Vous voyez ça? Et puis il t'ajoute que toi tu n'as pas lu la constitution. Voilà. Ils n'ont qu'à abandonner ce type de APC. APC là, après quoi ils ont confondu 144 et 59. Ils n'ont qu'à abandonner ce type de APC là.
D'accord.
Nous, notre génération, nous, on ne peut pas confondre deux articles comme ça.
D'accord.
Mais c'est ce qui est réglé.
Merci beaucoup, merci. Basile, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91. 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce jeudi 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Bonjour, papa Sibiti.
Bonjour, le fils de mon patron, directeur Kondjo.
Oui, bonjour, papa Sibiti.
Il faut répondre comme papa, paix à son âme.
Oui, bonjour, papa Sibiti.
Mais papa.
Merci. Ce que vous venez de dire.
Oui.
Monsieur Filiadin, président, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ce que vous venez de dire m'a tout résumé. Vous avez parlé de la constitution en terminant. Et Togolais que nous sommes, cette constitution-là, si on allait au référendum, vous avez dit quelque chose. Et je pense être pour. Ça va sortir, oui. C'est ce à quoi je pense. Deuxièmement, DMK, le prélat Kodro a maudit ceux qui iront. Est-ce que c'est normal? Ben, quand on va en prison, ce n'est pas parce qu'on est courageux là, monsieur le président Sylvain, je dis non. Mais on vous fait aller en prison, ce n'est pas vous-même qui sortez, dire bon, je suis courageux, on peut m'amener en prison. Ce que, et puis monsieur le fils de mon patron, le terrorisme. Les terroristes sont en bas. Pourquoi les drones, les avions de chasse là ne peuvent pas les anéantir? Pour terminer, je souhaite bon vent à notre président de la République et le chef d'état-major pour qu'il fasse tout avec la CEDEAO pour combattre ces terroristes là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. Allô?
Ouais, bon, je reviens. Basile, pour dire que quand on va obtenir le référendum, ce n'est pas l'élection qu'ils organisent ici qu'on va faire. À l'instar de 1958, on doit chercher que une institution neutre pilote les choses. C'est ce que vous. On sait que quand on va faire n'importe quelle élection, ils vont gagner. Mais si vous êtes sûr, vous pouvez contester aujourd'hui qu'il faut le référendum. Et si vous acceptez que c'est leur élection qu'ils font, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On doit chercher des voies et des moyens pour faire une élection. Et que papa Sibiti dit que ça va être oui, bon, on sait de quelle élection on parle. Donc moi, je ne pense pas que on doit s'aventurer sur cette voie-là.
D'accord. Merci, Basile. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce jeudi 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, s'il vous plaît?
Je suis Jean, j'appelle de Demakwa.
Jean, depuis Demakwa, allez-y.
Oui, oui. Bonjour, monsieur Sylvain. Bonjour, monsieur Sylvain.
Oui, oui, il vous répond.
Bonjour, monsieur Jean.
Oui, est-ce que c'est Sylvain de Tchépo?
Affirmatif.
Que Dieu te bénisse, mon frère.
Amen.
J'étais gendarme en service à la brigade de Tablido. Mm-hmm. Ça me va bien encore de vous entendre parler. Je vous souhaite aussi bon courage et puis continuer.
Merci beaucoup. Merci de soutenir. Excellente journée.
Merci beaucoup, monsieur Jean. Je pense que monsieur Jean, c'est le dernier auditeur hein, pour le compte à l'heure de cette émission de ce jeudi. Nous revenons en plateau. Monsieur Sylvain, vous avez écouté vos compatriotes, les uns et les autres, qui se sont prononcés aussi sur l'actualité, telle que nous l'avons débattu ici au Club de la Presse. C'est le principe de l'émission. Quelle est votre réaction?
Les uns et les autres ont raison de leur point de vue. Je vais commencer par l'histoire du référendum et
même si on sait, parce que vous savez, si nous voulons rester dans le cadre républicain, nous n'avons pas beaucoup d'options. C'est d'être courageux, d'aller sur le terrain, de remettre l'ouvrage sur le métier sur l'ouvrage. Et après, on verra comment les rapports peuvent évoluer. Mais si on allait au référendum, on n'a pas d'autre choix. Mais au moins, il y aurait visiblement le chemin conforme à la Constitution.
La procédure serait respectée.
La procédure aurait été respectée. Après, on peut contester les résultats, mais au moins, on n'aurait pas la procédure aurait été respectée. Par rapport, il y a une question qui m'échappe, mais sur le reste, bon, les hommes politiques n'ont pas pour vocation d'aller en prison. Nous ne disons pas que les gens doivent aller en prison ou quand on y va, c'est parce qu'on est courageux. D'ailleurs, parfois, c'est par maladresse même qu'ils se font, qu'ils tombent sous le coup de la loi. Il faut éviter cela. Il ne faut pas mesurer la popularité ou l'intégrité d'un homme au taux de fois qu'il a été détenu. Il faut voir comment il organise sa structure et comment il avance vers l'intérêt du peuple. Parce que le peuple ne peut pas continuer indéfiniment à attendre.
D'accord. Et Ambroise, nous sommes à la fin de cette émission. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce que les uns et les autres ont dit, c'est-à-dire les auditeurs?
Moi, j'ai juste un message à envoyer aux politiciens. La politique, c'est vrai, on dit, c'est marcher sur certaines mauvaises langues le disent. Hein. C'est vrai, c'est des bonnes langues. C'est piétiner l'autre pour avancer. Moi, je pense plutôt le contraire parce que la morale doit guider aussi la politique. Il faut que la morale guide la politique pour qu'il y ait une certaine dignité d'abord pour la personne.
L'éthique politique.
Oui, pour qu'il y ait une dignité pour la personne qui l'anime. Et ensuite, l'éthique et une conviction d'aller droit vers la vérité. Parce que s'il n'y a pas la vérité en politique, donc le peuple est trompé. Donc les gens prennent le peuple comme un bouboule. Désormais que nos politiciens, qu'ils mettent à l'écart l'ego, se vêtir de l'humilité, et ensuite, soit droit dans la vérité et la justice. Là, le peuple sera derrière vous. Mais faut pas être démagogue, et après tout, nous dire que vous êtes politicien. Donc, moi, j'en appelle à ceux qui sont de la DMP, MPDD et DMK, de se parler, parce qu'après tout, nous sommes des Togolais, quoi. Et nous visons le même combat, non? À moins que certains parmi eux cherchent à s'allier avec ceux qui sont au pouvoir. Je le dis en toute sincérité. Parce que, dans cette histoire, on se connaît. Nous, moi, j'étais en quatrième, quand on a pris l'ogre de Souvier, l'ogre d'Oglo, de l'université, pour aller à la justice. Moi, j'étais là. Et donc, mon vieux a participé à la conférence nationale souveraine. Je sais beaucoup de choses. Il y a les documents, même les cassettes, moi, j'ai tout ça. Pour vous dire que nous ne sommes pas à l'université, on était là quand le RACAB était là. L'Amboli, l'Orempo, l'Orson, Relou, tout ça là, on était à l'université. Et donc, pour vous dire que on connaît ce qui anime la politique. On connaît ceux qui sont vrais, mais seulement il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Nous les exhortons à aller droit vers le but, dans la vérité, la sincérité et la justice.
D'accord. Michel?
Oh non, moi je reviens juste à mon trou dont je parlais au début.
Allez-y, bas-sitôt.
Il faut que ceux qui sont chargés de régler ce problème...
On va prier pour que la route soit habituée là.
Une question de prière, Ambroise.
Voilà. Moi, je ne suis pas encore là.
Togo, il faut prier.
C'est une expression. Parce que la gouvernance, c'est une programmation. Je me dis que tôt ou tard, cette voie-là sera bitumée. Mais en entendant cette petite partie-là, quand même, qu'on la rend. Parce que si vous venez, Pascal, vous pouvez faire pousser un peu de curiosité pour venir vous mettre au feu rouge de l'Ebacito. Observez comment les véhicules, les motos, comment au début de la route de Michel Tove, comment vraiment c'est pénible. Et ça fait des mois, et actuellement les pluies ont cessé, maintenant le trou est béant. Et avant, avec la pluie, il y a l'eau, et ceux qui ne savent pas, il y a des femmes qui viennent tomber avec leur
moto. Mais on a clé un peu,
et
quoi.
Elles sont dedans, il faut que les jeunes viennent les sauver. Mais bon, alors que c'est. Comment on peut vraiment fermer les yeux pendant des mois que ce trou-là soit là et que tout le monde, les gens avec de gros cylindres, ils viennent là-bas, ils souffrent. Mais je me demande, mais comment ça peut se faire comme ça? Vivement que ceux qui sont chargés, parce qu'ils se connaissent, qu'ils règlent ce problème. Sinon, le jeudi prochain, si je suis encore en vie, je reviendrai ici avec le même problème.
D'accord, parce que ça vous tient à cœur, ce problème. Et alors, Jonas Siliadin, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous avez un mot de la fin.
J'ai beaucoup de temps ou pas?
Non, vous avez que une minute.
Une minute.
Oui.
Je voudrais dire que nous devons tous, et je remercie bien les deux journalistes sur le plateau, d'avoir repris un certain nombre d'éléments importants, notamment l'humilité en politique, la vérité en politique. Les mauvaises langues disent qu'il faut marcher sur les gens pour faire de la politique. Mais si vous voyez les grands hommes que nous retenons, que l'histoire retient, Mandela, par exemple, vous avez vu qu'il n'a marché sur personne pour arriver. Les grands hommes politiques, ceux qui sont des leaders, ne font pas ça. Donc l'humilité est une vertu cardinale que nous devons cultiver. L'attachement à la vérité et éviter la démagogie. Moi, je garantis à tous les militants du MPDD et à toute la classe politique que nous ferons tout pour donner une chance à ce parti-là de survivre et d'être un acteur majeur pour l'ancrage de la démocratie au Togo.
D'accord. Merci beaucoup, Jonas Siliadin. Vous êtes alors le président par intérim du MPDD. MPDD, c'est bien sûr le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement, bien sûr. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci à vous de nous avoir invités.
D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci, Michel Yao Tadja, d'être passé aussi dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir toujours chaque jeudi pour animer cette émission. Ambroise Pondo, merci pour votre contribution au débat lors de ce jeudi. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel et Michel Tomega qui a assuré la mise en onde lors de cette émission. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve demain. Demain, nous serons déjà dans une émission délocalisée, et ce serait avec la radio du littoral, et ce serait animé dans un lieu que nous allons vous dévoiler demain, sur les lieux bien sûr. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve demain. Au revoir.